Bonjour à tous. Jésus vient de quitter physiquement ses disciples. Sa mission terrestre est arrivée à son terme. Une nouvelle ère s'ouvre. Après le temps de Jésus sur terre, vient le temps de l'Église dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Dimanche dernier, on n'était pas là, mais Marie-Noël a parlé de l'ascension. J'ai réécouté sur le site, ça va être très bien le site. Avec le départ de Jésus, les disciples sont devenus adultes, sans tuteur à leur côté, pour mettre en œuvre le projet de Dieu pour l'humanité. Jésus n'est plus sur terre. Il appartient maintenant aux disciples d'être le témoin de son évangile. Les dernières paroles en présentiel de Jésus sont rapportées dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. « Mais vous, recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors que les disciples assistent au départ de Jésus, deux hommes habillés en blanc, acte 1, verset 10 et 11, annoncent « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Fidèles et obéissants, les disciples, les onze, plus les sympathisants directs, dont Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus, comme dit le texte, retournent à Jérusalem. Ils sont environ 120 personnes et partagent leur temps entre la prière, se recueillir dans la présence de Dieu, se mettre à son écoute, entretenir une relation avec le Père Céleste et l'action, en particulier la recherche du remplaçant de Judas, celui qui a livré Jésus aux autorités, qui se finit banalement par un tirage au sort entre Barsabas et Matthias. Aller à Jérusalem, attendre, s'organiser, se préparer, faire confiance à l'action de Dieu pour cette nouvelle ère qui s'ouvre devant l'humanité. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, versets 18 à 20, les dernières paroles de Jésus sont « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En ce jour de Pentecôte, à Jérusalem, c'est jour de fête. La fête des semaines, 7 semaines après Pâques, la fête des moissons. C'est un jour de pèlerinage. La ville accueille ceux qui viennent de loin, juifs, prosélytes et ceux qu'on appelle les craignants Dieu, ceux qui n'ont pas d'origine familiale juive mais qui reconnaissent l'autorité du Dieu vivant éternel, créateur du ciel et de la terre. Les 120 participent aux réjouissances. C'est leur vie sociale dont ils sont familiers. Lisons le texte, le récit de ce jour de Pentecôte, la première Pentecôte après la résurrection et l'ascension de Jésus. Acte 2, versets 1 à 49. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre langue propre à chacun, dans notre langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient : ils sont pleins de vin. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes : hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en lui délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Du bruit du feu, chaque personne présente est bousculée. Chacune est renouvelée dans sa capacité à communiquer. Le bruit attire et intrigue. Le bruit interroge. L'esprit se manifeste comme une évidence incontestable. Les proches de Jésus étaient de Galilée, un peu comme des touristes, voire des étrangers à Jérusalem. Fidèles et obéissants aux directives de Jésus, les disciples devaient bien s'interroger sur les moyens dont ils disposeraient pour annoncer la bonne nouvelle aux nations. Et voilà que cette puissance du Saint-Esprit les équipe pour communiquer en de nombreuses langues étrangères. L'enseignement que Jésus leur a laissé. La foule cosmopolite et bigarrée qui était à Jérusalem pour les festivités de Pentecôte découvre, entend parler des choses grandioses de Dieu dans leur langue maternelle. Plus besoin de traduction, plus besoin d'apprendre l'hébreu ou l'araméen, les disciples, remplis de la puissance du Saint-Esprit, exercent leur don du parler en langue étrangère pour inciter à la repentance, au changement de vie radical, pour suivre Jésus et son enseignement. Pierre prend la parole pour donner du sens à l'événement. Dans son discours, on constate que la première préoccupation de cette église naissante est d'ancrer la réalité de Jésus dans le projet de Dieu. Pierre cite le prophète Joël qui a annoncé pour la fin des temps un renouveau prophétique de tout Israël. Les apôtres ont conscience d'être entrés dans la phase ultime de l'histoire. Avec ce récit de la Pentecôte, la révélation de Dieu est complète, ce qui nous fait entrer dans les derniers temps, immédiatement après la résurrection et l'ascension de Jésus. Pierre cite le psaume 16 et le psaume 110 pour bien souligner la continuité de l'œuvre de Dieu et l'ancrage de la bonne nouvelle dans l'Ancien Testament. Jésus lui-même a constamment enseigné à partir de textes de l'Ancien Testament qui nous permettent encore aujourd'hui de connaître le bon projet de Dieu pour les humains. Le discours de Pierre est convaincant. Apparemment, après le bruit initial, après l'effusion spectaculaire du Saint-Esprit, le brouhaha général des langues étrangères parlées, la foule se tait. Écoute le discours de Pierre. Et l'assistance s'interroge. Que devons-nous faire? Un changement en quatre temps. Repentez-vous. Aspirez à un changement radical de vie. Faites-vous baptiser. Confessez publiquement que Jésus, le Christ, est Seigneur et Sauveur pour votre vie. Recevez le pardon pour vos péchés, sans quoi nous ne pouvons entrer dans l'intimité du Père Céleste. Et recevez le don de l'Esprit Saint, cette composante de la Trinité qui nous accompagne au quotidien dans notre parcours terrestre. Voilà l'histoire de ce jour de Pentecôte. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, 12, 11, 120, 3000 le soir de la Pentecôte, 5000 quelques temps plus tard, acte 4, verset 4, et de plus en plus de disciples, acte 5, verset 15. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de plus en plus. C'est la croissance exponentielle de l'Église au 1er siècle, boostée par la puissance du Saint-Esprit. En ce jour de Pentecôte, dès le matin, l'Esprit est donné aux disciples et rend possible la compréhension mutuelle. Les barrières de langue sont surmontées. Ceux qui parlent sont entendus et compris par ceux qui écoutent et entendent. Le soir, tous ceux qui entrent dans une démarche de conversion sont assurés de recevoir le don de l'Esprit-Saint. Si vous êtes présent ce matin pour vivre et partager la fraternité dans la présence de Jésus, vous avez reçu le don de l'Esprit-Saint, assurément. Bien sûr, nous savons tous, et là je me méfie quand quelqu'un devant nous dit « Vous n'êtes pas sans savoir » ou « Vous savez tous », ça exerce ma vigilance, mais pour l'instant je ne vais pas vous raconter des âneries, vous pouvez avoir confiance. Bien sûr, nous savons tous que la fonction de l'Esprit n'est pas celle d'une voix intérieure qui ferait de nous des illuminés pleins de certitude, mais celle d'un guide qui ouvre nos yeux pour que nous ayons la foi en Christ et que cette foi nous aide à grandir pour nous rendre de plus en plus fidèles et obéissants à la volonté de Dieu. Je vais illustrer ce propos par deux petites histoires. Au cours de l'histoire, et en particulier dans l'histoire de l'Église, La mise en avant du Saint-Esprit n'a pas toujours contribué à la bonne réputation de l'Église. Au début du XVIe siècle, la société européenne est en crise. Grâce à l'invention de l'imprimerie, les connaissances deviennent accessibles à ceux qui ont appris à lire, et notamment la Bible qui jusque-là était réservée au cadre du monde religieux. La lecture de la Bible devient accessible à plus de personnes. Le peuple aspire à moins de pression fiscale et à plus de démocratie. Les épidémies meurtrières sont encore dans les mémoires et restent une menace réelle et constante. Les Turcs musulmans sont aux portes de Vienne, en Autriche, et prêts à envahir l'Europe. C'est presque la même chose aujourd'hui. À ceci près que le numérique révolutionne l'accès aux connaissances comme le livre imprimé à l'époque. La réforme remet en cause et contrôle les excès de l'exercice du pouvoir religieux. À Zurich, au début de l'année 1525, quelques personnes se réunissent pour lire et étudier le texte biblique et découvrent que la communauté locale peut revenir à un type de fonctionnement semblable à l'Église du 1er siècle. Pas de hiérarchie. C'est les frères et sœurs ensemble qui lisent et cherchent à comprendre en communauté le sens de la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Ils souhaitent s'émanciper de la tutelle des autorités civiles dont les intérêts ne sont pas ceux de l'Église. Et pour se démarquer des autres réformateurs, ils pratiquent le baptême sur confession de foi des adultes et refusent le baptême automatique des enfants. Ils se mettent en marge de la société de l'époque. Mais comme ces nouvelles idées se propagent dans la population dans toute l'Europe, les anabaptistes, comme ils sont appelés, sont classés comme des agitateurs dangereux, voire des terroristes qui perturbent la stabilité du pouvoir politique et religieux en place. Et, par abus de ceci, tout opposant aux intérêts du pouvoir établi se faisait traiter d'anabaptiste et par conséquent, il pouvait être torturé et mis à mort tout à fait légalement. Dans la diversité des personnalités de ce mouvement, certains sont clairement sortis du cadre que Dieu a fixé pour son peuple, en invoquant l'inspiration par le Saint-Esprit. Pentecôte était une belle découverte. L'Esprit Saint qui se répand sur la communauté pour construire un nouveau projet. Jusque dans les années 1980, lorsqu'on consultait un dictionnaire français sous le terme anabaptiste, on pouvait lire « secte religieuse massacrée à Münster en Westphalie en 1535 ». Revenons rapidement sur cette période sombre de l'histoire. En quelques années, le mouvement de réforme radicale, c'est ce qui signifie revenir aux racines de l'Église primitive, sous prétexte d'inspiration directe par le Saint-Esprit, avait donné naissance aux pires dérives. À Münster, en Westphalie, un groupe qui se disait anabaptiste a réussi à obtenir une majorité au conseil municipal de la ville et a mis en place un gouvernement local autoritaire et totalitaire sous prétexte de préparer le royaume de Dieu sur terre. La mise en commun des biens devient obligatoire au bénéfice des dirigeants. Les personnes qui s'opposent au pouvoir sont maltraitées et expulsées de la ville sous prétexte de venir en aide aux veuves. La polygamie est validée. On annonce même la fin du monde imminente. À l'intérieur de la ville, la tentative de créer la nouvelle Jérusalem décrite dans l'Apocalypse tourne à la misère totale. La ville est reprise par le prince-évêque le 24 juin 1535. Les dirigeants survivants, et notamment Jean de Leyde, qui prétendait être directement inspiré par le Saint-Esprit, furent torturés et leurs cadavres furent exposés dans des cages suspendues au clocher de l'église Saint-Lambert, que l'on peut encore voir de nos jours. Ils ont enlevé les yeux. Clairement, le Saint-Esprit répandu à Pentecôte ne peut pas être invoqué en aucune façon pour exercer une autorité sur les frères et sœurs. L'invocation de l'inspiration par le Saint-Esprit pour un projet personnel différent du projet de Jésus décrit dans la Bible n'est pas légitime. Le Saint-Esprit, comme on l'a déjà dit, n'est pas une voie intérieure qui ferait de nous des illuminés pleins de certitudes, mais d'un guide qui ouvre nos yeux pour que nous ayons la foi en Christ. C'est la partie des anabaptistes pacifiques qui a survécu à ces dérives. Les anabaptistes sont devenus mennonites et avec l'aide du Saint-Esprit, la communauté se méfie des dirigeants, des leaders trop inspirés ou trop autoritaires. Deuxième petit exemple, plus proche de nous. Dans les années 1970, un homme du côté de Mulhouse découvre la puissance de l'Évangile, notamment pour la guérison des malades. Cet homme, commerçant en confiserie, découvre un verset de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, dans la lettre de l'Église, pour l'Église de Sardes. « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cet homme fonde ce qu'il appelle la mission du plein Évangile pour se démarquer des églises existantes locales. Son projet connaît la prospérité plus que son commerce de confiserie à l'origine et devient une multinationale de l'évangélisation, basée sur la vision, cette porte ouverte de l'Apocalypse, et sur la guérison des malades, par l'exercice d'un ministère particulièrement attractif, avec de nombreuses anecdotes et mises en scène convaincantes. Cette église, fondée et dirigée par Jean et son fils Samuel Peter Schmidt, a fait la une des médias au printemps dernier. Permettez-moi de relever que pour l'épidémie, ils n'ont pas vu venir, vision incomplète. Et pour la guérison, il a fallu passer préalablement par la case maladie contagieuse contractée dans la salle de réunion. L'invocation de l'inspiration par le Saint-Esprit, l'accent mis sur le baptême du Saint-Esprit, est souvent évoqué par les orateurs de cette multinationale de l'évangélisation pour leur conférer une autorité particulière dans l'enseignement. La référence au texte biblique devient souvent juste un prétexte pour parler de soi, pour impressionner le spectateur et lui faire ouvrir son porte-monnaie. On est bien loin de cette expérience de Pentecôte où Pierre ancre la réalité de la résurrection de Jésus dans le plan de Dieu qui ouvre cette période entre l'ascension de Jésus et son retour sur terre, comme annoncé par les anges. On nomme la fin des temps. Pour conclure, avant de rejoindre son Père céleste, Jésus a répondu à ses disciples : ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité en rapport avec le rétablissement du royaume d'Israël. À Pentecôte, le Saint-Esprit, de manière spectaculaire et bruyante, a été donné aux disciples de Jésus pour qu'ils puissent communiquer clairement et directement avec toutes sortes de personnes et partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Le soir de Pentecôte, le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit est recevable par chaque personne qui entame un processus de conversion. Le monde, qui était parfait à l'origine, à l'issue de la création et qui a été perturbé par la rébellion des humains, est en cours de restauration. C'est notre espérance, c'est la bonne nouvelle. L'enseignement et la résurrection de Jésus ont accéléré le mouvement. Toutes les entreprises humaines qui recherchent la paix, la justice, le pardon, l'amour, contribuent à poser des signes pour le projet de Dieu pour les humains et la venue de son règne. Que l'Esprit Saint nous dirige dans nos pensées et motive notre action, pour que le règne de Dieu vienne. Amen.